Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance. C'est Areski Sugar qui vous parle. Pour vous dire que je suis en spectacle actuellement au Théâtre Beau-Saint-Martin à Paris. Donc si vous voulez venir voir une superbe heure de stand-up, n'hésitez pas à prendre vos places. Il reste des places pour les trois dernières représentations de la saison. Le 15 juin, 28 juin et 12 juillet. N'hésitez pas à aller sur Bireduc ou suivre les liens depuis la description du podcast ou aller sur sugarfree.com. Merci à tous. Profitez bien de cet épisode. Bisous. Il est là, le second épisode de la semaine. Bienvenue dans Fin de Séance. Le dernier Pixar vient de sortir, donc forcément il fallait qu'on se rejoigne pour en parler, hein, puisque ce sont les seuls films qui me font ressentir des émotions, hein, et ma psy m'a dit d'aller vers ça. Je me répète, je le sais, mais il faut que je me répète, parce que c'est comme ça que l'éducation se fait. Vous nous suivez sur Facebook, Instagram, Twitter, votre appli de podcast préféré. Comme ça, ils vont se télécharger directement dès qu'un épisode sort. N'oubliez pas le mail finde-séance@gmail.com. Vous pouvez envoyer toutes vos questions, vos commentaires sur les épisodes ou les films. On y répondra avec plaisir dans les épisodes suivants, tout simplement. Aujourd'hui, j'étais avec Robin et Arnaud. On a vu Coco. On a parlé d'autres films également comme Jim and Andy sur Netflix et La Villa qui est en ce moment au cinéma. Comme d'habitude, le descriptif vous donne le minutage si vous voulez directement skipper aux parties qui vous intéressent. Mais bon, normalement, tout vous intéresse. Donc, laissez rouler l'épisode. Hein ? Ok. Allez, je vous embête pas plus, je vous laisse écouter l'épisode. On s'est bien marré en le voyant, ce film, et en en parlant. Gros bisous à tous.
Je crois que c'est le meilleur test possible, c'est dire blablabla. Bla bla bla.
C'est ça.
Ça va très bien comme ça.
Ok, bah c'est bon pour.
Est-ce que vous voulez faire une petite section news si vous avez des news à part accepter
Ah ouais, moi j'ai un petit truc.
Vas-y.
En fait, je suis tombé sur cette publicité pour un film dans le 20 minutes. Mm-hmm. Et donc, pour nos auditeurs, je dis, il s'agit du film Man Down avec Shia LaBeouf, dont j'avais jamais entendu parler. Mmh. En fait, ce qui a attiré mon attention dessus, c'est généralement maintenant sur les affiches de films, tu sais, il y a toujours des citations entre guillemets, du genre jubilatoire, le monde, formidable, meilleur film depuis Citizen Kane, 20 minutes, tu vois, des trucs comme ça. Et là, il y a une citation entre guillemets du journal The Guardian, le journal anglais. Et cette citation, c'est Shia LaBeouf dans un monde post-apocalyptique. Point.
Une description.
Une description objective.
Non, mais j'imagine, c'est genre la meilleure citation qu'ils ont pu trouver dans les journaux.
Les gars, ils se sont dit, je vais payer quelqu'un pour quelque chose. Un film d'1h47. Ouais, c'est ce qu'ils ont pu trouver.
Il y a aussi des affiches de films qui reprennent en fait des tweets.
Ah oui, ça. Ouais. Moi j'ai cru que t'allais dire ça en fait au début.
Ah mais si,
et
j'avais
c'est
vu ça.
Assez ouais, énorme, ouais, genre ouais. Un moment génial @Michel, tu vois. Et là tu fais, mais qui est cette personne? Pourquoi j'en aurais quelque chose à foutre, tu vois?
En fait, il faut vraiment imaginer ce qui se passe dans la tête du distributeur, du producteur et de l'affichiste quand ils se disent bon, il faut trouver des citations.
Il nous reste plus que critique. Ça en fait. Demande au petit stagiaire qui vient là de tweeter quelque chose. Et tu prends un screenshot de son tweet.
Une anecdote marrante à raconter à ce sujet. Quand j'étais à l'école pour gagner ma vie, je travaillais pour le magazine des cinémas Gaumont-Pathé. Et donc, du coup, je faisais les petits résumés qui sont dans le magazine. Donc, j'allais voir les films en Projo Presse. Et après, je faisais des résumés, mais qui étaient pas très très différent des résumés qu'on trouve sur Allociné, sinon que du coup il fallait pas que ce soit les résumés d'Allociné. Enfin, c'était clairement pas de la critique, c'était pas du journalisme, absolument pas.
Et qui sont des résumés sur Allociné ou des choses comme ça, qui sont des résumés officiels, donc qui sont faits normalement par la production des
par
films.
Les ouais, par les distributeurs, les attachés de presse, voilà. Et donc, ouais, tout à fait. Mais du coup, là, dans le magazine des Cinémas Gaumont-Pathé, j'ai fait des trucs un peu plus intéressants. Ça dépendait de la longueur des articles. Ouais. J'ai fait des interviews et trucs qui étaient, parfois, c'était cool. Mais clairement, c'était pas du journalisme. Et un jour, je reçois un coup de téléphone d'un distributeur d'un film qui me dit: oui, bonjour, on a vu que vous avez écrit sur, je sais plus quel film c'était, vous avez l'air d'avoir aimé. Est-ce que vous avez écrit quelque chose dont on pourrait se servir pour une punchline, pour une affiche? Et moi, je leur ai dit, mais attendez, que les choses soient claires, je suis pas journaliste, c'est-à-dire que je peux pas dire que j'ai pas aimé le film. C'est les Cinémas Gaumont-Pathé, leur magazine, ils vendent les films qu'ils
C'est
vont
clair.
exploiter en salle. Et du coup, voilà,
Ben
je
justement,
suis
ça nous
passé.
intéresse que vous ne puissiez pas dire du mal des
Oui, c'est ça.
On n'est pas passé loin d'une vraie publicité mensongère, je
Ouais, c'est
pense.
clair. Donc on aurait
J'aurais
pu
pu me
voir ton
taire et dire,
nom sur une affiche,
ouais,
quoi.
un film fantastique.
Gaumont.
Les cinémas Gaumont
Le cinéma.
Pathé.
Un film tourné grâce à des caméras. Robin.
Non. Non mais c'est ouf, t'imagines, c'est devenu tellement un code que genre s'il n'y a rien de positif dans la presse, on met n'importe quoi en fait maintenant. C'est ça quoi, c'est...
Le pire, c'est que je pense que l'œil n'est tellement plus attiré par ce genre de quotes là que tu pourrais mettre vraiment de la merde. Tu pourrais mettre n'importe quoi. Attends, tu vois, il va probablement bientôt sortir en Blu-ray, tu vois. Et tu mets ça. Je pense que personne ne voit. C'était comme ils avaient fait un test, tu sais, avec des marques. Et nos cerveaux sont tellement habitués aux marques que si on garde la même police, mais qu'on note quelque chose d'autre, on voit quand même Coca-Cola, alors que dessus, t'as marqué caca, tu vois. Ou un truc comme ça. C'est assez fou
Ouais,
de voir à quel point on se
ça
trompe.
m'étonne pas.
Ah, j'en ai parlé dans le dernier épisode que je n'ai pas encore monté de C'est tout pour moi, mais j'ai envie d'en reparler avec vous. J'ai vu la bande-annonce, la nouvelle bande-annonce du film de Ridley Scott,
Ah oui.
et en fait ils ont coupé la tête de Kevin Spacey, c'est-à-dire que toutes les scènes où il y avait Kevin Spacey, tout a été coupé. Ils ont gardé que sa voix à la fin et un plan très très large où on voit pas qui ça peut être, tu vois. La bande-annonce a enfin été retouchée, le temps de
Mais j'ai
retourner, j'imagine, tout ça avec Christopher Plummer.
même vu un teaser où on voyait Christopher Plummer quoi à la
Ah!
place de.
C'était probablement la première scène tournée, il fallait absolument sortir un truc niveau marketing, donc pour dire à quel point ils sont rapides quand même pour changer les choses au cinéma.
Ben, il vaut mieux.
C'est tout. Je crois que je n'ai aucune news. On peut techniquement, si vous voulez, rentrer directement
Non, moi non plus, pas de news particulière.
dans le film d'aujourd'hui. Alors, Coco, à ne pas confondre avec l'autre Coco de Gad Elmaleh, sorti le 29 novembre 2017, de Lee Unkrich et Adrian Molina. Tiens, c'est marrant parce que dans le générique, j'ai pas vu Adrian Molina par contre.
Si,
Ah,
si, il est marqué à co-directed, mais
Ah oui,
je me
donc
demande
sur.
vraiment ce qui s'est passé parce qu'on voit que Adrian Molina donc est crédité plusieurs fois au scénario parce qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs trucs, c'est-à-dire histoire 2, scénario 2 et concept original 2, et en fait Adrian Molina est à chaque fois présent parmi les noms qui sont dans ces choses-là. Donc en fait, je pense que c'est à la base un projet de Adrian Molina et que sans doute, comme ils l'ont déjà fait en cours de tournage, en fait, ils se sont rendus compte que niveau mise en scène, il y avait quelque chose qui leur plaisait pas, et donc ils ont collé Lee Unkrich par-dessus pour revoir le projet.
Ouais. Oui, d'accord, je sais ce que tu veux dire.
Et qui du coup est crédité avant lui.
Qui du coup, en tant que réalisateur, est
Ouais.
crédité avant lui, ouais.
Et tu penses que c'est quelque chose de cet
Ben, en
ordre qui
fait,
s'est
c'était
passé?
arrivé, je sais que c'est quelque chose qui était arrivé pour Ratatouille, puisque Ratatouille, à la base, c'était un projet de Yann Pincava, qui est un réalisateur qui avait fait plusieurs petits courts-métrages pour Pixar, tu sais, les petits courts-métrages qu'on voit au début des films d'habitude. C'est un de ses projets, ça devait être son premier long-métrage. Et au milieu de la production, en fait, les grands pontes de Pixar ont estimé que il n'y avait pas le niveau suffisant pour
Pour le
aboutir le
film, ouais.
long-métrage. Donc ils ont viré Yann Pincava. ce qui est, là ils ont apparemment pas viré Molina quoi, mais ils avaient viré Ian Pinkava pour le remplacer par Brad Bird, qui avait réécrit le scénario et retourné entièrement le film à partir de ce moment-là en fait.
D'accord. Okay.
Donc je sais qu'ils sont coutumiers du fait, et donc là je me suis pas renseigné, faudrait vraiment qu'on se renseigne sur ça, mais j'ai l'impression que c'est plutôt un projet d'Adrian Molina à la base.
Bah, là clairement le problème c'est que dans le générique du film, quand c'était réalisé par, il y avait que son nom. Donc si effectivement il y a eu un encart après pour dire co,
après il y avait marqué co-directed,
j'ai raté ça après, ouais. Mais oui, il y a vraiment que sur Halluciné que je vois ça. J'allais dire avec certaines personnes, mais ça dépend. Et alors c'est certainement pas Harry Habitant et François-Xavier de Maison qu'il faut voir, parce que si vous devez voir une version, autant pas voir celle en français. On va en parler tout de suite après. Du coup, je dis pas le cast, je vais juste parler du synopsis. Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré, le pays des morts. Petit clip.
Viens, Dante, dépêche-toi. Faut pas qu'on m'entende. Je sais, je devrais pas aimer la musique, mais c'est plus fort que moi. J'ai la musique dans le sang. Moi, je serai musicien.
Les musiciens sont égoïstes et irresponsables.
On a dit plus de musique. Tu vas écouter ta famille.
Pas de musique.
Pas de musique.
Je pense que nous sommes les seuls au Mexique à détester la musique.
Día de los Muertos a commencé. Ce soir, on reste en famille.
Tes ancêtres seront toujours là pour te guider.
Si seulement quelqu'un pouvait m'aider à accomplir mon rêve.
Alors, avant de nous dire ce que vous avez pensé du film, on va voir les différentes versions. Alors moi, j'ai posé mon séant sur le siège du cinéma Gaumont-Wilson à Toulouse, et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai réalisé que le film était en espagnol. Ce qui m'a semblé totalement cohérent, puisque j'ai découvert que ça se passait au Mexique. Je savais rien du tout du film hein, quand je suis parti le voir. J'ai quand même un bémol à ça, c'est que le film a été tourné entre guillemets pour de l'anglais. C'est-à-dire que les lèvres des personnages bougent pour de l'anglais et pas pour de l'espagnol. Donc ça m'a quand même gêné. Parce que là, c'est les derniers, on va dire pendant les 10 dernières années, tous les Pixar qui sont sortis ont fait d'énormes progrès techniques pour les lèvres des personnages et que ça colle bien avec le langage utilisé. Et là, je crois que c'est la première fois que je revois un film doublé depuis 10 ans, quoi.
Et juste question, parce que je sais que le cast anglophone du film est ce sont des
latino-américains.
Latino-américains, c'est Gael Garcia Bernal notamment qui joue Hector. Est-ce que c'est Bernal aussi qui joue Hector?
Bernal, c'est le seul qui reste en espagnol. C'est Gael Garcia Bernal. D'accord. Pour Hector. Tous les autres, je ne les connais pas et c'est des acteurs mexicains. J'ai regardé effectivement pour voir s'il y en avait pas. Et bon, c'est un peu, ça m'embête aussi un peu parce qu'il y a des grands noms dans la version américaine. Il y a Edward James Olmos, il y a Benjamin Bratt aussi qui fait de la Cruz. C'est des gens que je connais, dont je reconnaîtrais la voix en fait si j'avais vu en anglais. Bon, après c'est pas grave, il joue excellemment bien aussi en espagnol. Mais
Et comment sont les chansons du coup? Parce que c'est...
Elles sont géniales.
Il est question de musique, ouais.
Mais c'est ce qu'on imaginait, parce que c'est vrai, et c'est vrai qu'avec Robin, on a été un petit peu gêné par le fait que les chansons soient en anglais, pour nous, alors que c'est vrai que le rythme de ces musiques, ça s'accorde beaucoup mieux avec la prosodie espagnole finalement, et on se disait que sans doute les versions espagnoles des chansons étaient meilleures.
Alors je vais vous dire, j'ai découvert là tout à l'heure, parce que j'ai voulu réécouter un peu de la BO. Sur YouTube, donc je me suis régalé avec la version espagnole, mais j'ai cliqué quand même sur la version anglaise, et en fait ce qui est chiant dans la version anglaise, et d'ailleurs dans toutes les versions internationales, parce que j'ai écouté vite fait en français aussi, par exemple dans la chanson Un poco loco, bah les gens disent Un poco loco, mais derrière ils parlent en anglais, donc pourquoi donc c'est un peu bête, alors que là tout le monde parle espagnol et les chansons sont excellentes et ça passe très très bien. Donc je suis ravi de ce choix, parce que tu me disais Robin que c'est pas un choix qui a été fait par tout le monde à Paris.
Non, alors si j'ai bien compris, mais je me suis pas renseigné, il y aurait au moins un écran, mais si, enfin si
une minorité.
Plus, que quelques-uns qui ont choisi de proposer le film en espagnol.
D'accord.
Et la plupart, en fait, ce qu'ils font dans leur programmation, c'est que ils ont les séances de la journée en français et les séances à partir de 20h en anglais, ouais.
D'accord.
Nous, du coup, on l'a vu en anglais et on a failli le voir en français. Parce
mais du coup, en fait, si tu veux, ça pose une vraie question parce que c'est vrai que là, pour le coup, tu vois, avec le sujet du film, ça aurait justifié que la version originale, c'est-à-dire que la synchronisation labiale soit faite sur la version espagnole, en fait, finalement. Et c'est là que je me dis où on voit vraiment, en fait, l'importance du monde anglophone dans la production audiovisuelle. Parce que, donc pour le coup, là, en ce moment, je travaille dans le cinéma d'animation. Et c'est vrai que pour une série qui est produite en France, qui doit être diffusée sur Canal+, en fait, la synchronisation labiale est faite sur la version anglaise aussi. C'est-à-dire que même quand on produit des choses ici en France, on pense d'abord à la version internationale. Et je sais que c'est la même chose avec les jeux vidéo. C'est-à-dire que la version originale pour les jeux produits par Ubisoft, qui est une boîte française, c'est la version anglaise. C'est toujours la version anglaise à partir du moment... Et c'est vrai que c'est pas...
Ce qui est gênant aussi, bon, après j'imagine que c'est des heures et peut-être quelques millions de dollars en plus, mais c'est vrai que c'est bête pour un film d'animation de pas avoir l'option d'avoir différentes versions de lèvres.
Ça coûterait mais beaucoup trop cher.
Impossible. Ce serait tellement énorme.
Impossible.
Mais en tout cas, tu vois, juste se dire que pour un film qui se passe au Mexique, ils auraient pu le doubler en anglais et faire la version originale en espagnol, tu vois.
Après je trouve ça bizarre parce que enfin oui ça se passe au Mexique mais Ratatouille ça se passe en France ils l'ont pas fait en français
mais même chose mais parce que en fait pourquoi ne pas la faire en, tu vois
mais après moi je suis pour hein, la Mel Gibson attitude de dire on va tout tourner en araméen et tout ça mais aussi enfin je comprends le truc de bah écoutez on est des Américains on fait nos films C'est la
après,
vie.
L'espagnol aux États-Unis a un autre statut que
voilà,
le français.
C'est pour ça. Ouais. Et c'est pour ça que la version espagnole, je pense, a été très travaillée et que d'ailleurs elle s'exporte internationalement. C'est parce que la langue la plus parlée aux États-Unis.
Je suis persuadé qu'aux États-Unis, il y a un paquet de cinéma qui le programme en espagnol.
C'est sûr.
Pour la communauté.
Je pense qu'on parle de toute la côte ouest plus le Texas, etc. Où clairement, les chaînes de télévision déjà ont le doublage espagnol inclus. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de souci. C'est un peu pour cette démographie-là qu'on a fait ce film et que Molina, c'est ça, il s'appelle Molina, a fait ça parce que lui aussi c'est un Américain d'origine mexicaine et c'est tout le sujet du film de parler de ses ancêtres, d'où on vient, etc. Donc, voilà.
Mais en tout cas, j'ai l'impression, et c'était la même impression déjà que ça faisait avec Ratatouille, c'est-à-dire c'était un film américain qui se passait en France, ici on a un film américain qui se passe au Mexique, je les trouve toujours, même si on retombe forcément toujours sur quelques clichés, mais en tout cas très respectueux des cultures, des cultures qu'ils abordent, quoi. Et c'est l'impression que m'a laissé Coco ici, ici au final, donc j'ai pas... aucune critique à ce niveau-là, je pense.
Non.
Je trouve qu'ils ont...
Oui, on sent pas du tout d'opportunisme.
Oui,
parce que déjà ça se passe au Mexique, tu vois. Par exemple, s'ils avaient fait ça sur, je sais pas, peut-être une famille aux États-Unis avec des immigrés ou de quelques générations, ça aurait senti l'opportunisme un peu plus. Ouais.
C'est la chose que tu vois, c'est, je sais que très très souvent, le film cartonne au Mexique là en ce moment, Coco.
Ouais.
Et je sais que Ratatouille, ça avait été un des plus gros succès en France de Pixar. Alors que bizarrement, je sais qu'en France, quand il y a un film américain qui se passe en France avec des clichés, ça plaît pas toujours des masses. Et pourtant, Ratatouille avait marché, donc ça montre bien qu'ils ont quand même une attitude un peu plus... un peu plus respectueuse que les autres majors. Hein,
ouais. Est-ce que Kung Fu Panda marche en Chine?
Je sais pas, ça tient.
Mais je crois que oui. Hein. Il m'a semblé avoir vu des images de Jack Black pour des premières à Shanghai et tout ça, que c'était assez énorme. Je crois. Hein.
Mais j'avais cru même entendre, mais peut-être que je fantasme, qu'ils ont créé une filiale en Chine pour pouvoir le distribuer sur les quotas...
Alors oui, mais ça c'est, une question qu'on a beaucoup abordée dans ce
podcast. Mais
ouais,
je l'ai peut-être entendu sur
Et du coup, pour résumer, en fait, en Chine, ils ont le droit d'importer qu'un certain nombre fixe de films par an sur leur territoire. Et la parade qu'ont trouvé les majors américaines, c'est de coproduire avec des sociétés de production chinoises. Ouais. Ce qui fait que...
tous leurs films, du coup.
Ouais,
pas uniquement Kung Fu Panda.
Non, tous leurs films. Il y a énorme, il y a de plus en plus de films où tu vois au début même un logo chinois au début du générique, et en fait ça leur permet de faire passer tous les films hollywoodiens pour des films chinois, et ce qui les arrange bien.
Ouais, et oui, parfois même à rajouter quelques petites scènes exprès pour la Chine.
Exactement.
Avec des acteurs chinois. Mm-hmm. Je pense à Iron Man
3,
où ils avaient rajouté un médecin chinois. Voilà, qui devait opérer Tony Stark, etc. Mais tout pour gagner le plus de thunes, quoi.
Mmh.
Ah bah oui, bien sûr.
Et ça marche très très bien, Coco, oui, alors que c'est sorti la semaine dernière aux États-Unis. Donc, enfin, de manière internationale. Et puis, je pense que gros carton dans tous les pays latinos. Clairement, partout où ça va parler espagnol, ça va être la folie, je pense. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, du coup?
Alors moi, bon, au final, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Je vais mettre quelques bémols au film, c'est-à-dire que par rapport à beaucoup d'autres Pixar, notamment, je trouve que le scénario n'est pas aussi abouti. C'est-à-dire que je trouve que le scénario parfois part un peu dans tous les sens pour finalement retomber sur ses pieds. Mais en tout cas, ce que j'avais envie de dire, c'est je trouve vraiment que la dernière partie du film, la fin du film, je la trouve magnifique. Je trouve que in fine ça rattrape tout ce que j'aurais à lui reprocher même avant ça. Je trouve qu'il y a des très très belles idées et que la mise en scène est plutôt bonne, qu'il y a un univers très riche, peut-être trop riche même, parce que justement le problème que j'ai notamment au milieu du film, c'est que le film se perd dans des parenthèses pour essayer d'explorer l'univers qu'ils ont créé, et que tout d'un coup en fait on se détache en fait du cœur émotionnel du film, qui est une histoire familiale, en fait une histoire de réconciliation familiale qui est plutôt belle, plutôt bien écrite, et mais au final c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Voilà.
Ok.
Je suis assez d'accord. Et oui, enfin c'est bien mis en scène tout l'univers, même si parfois très très riche, mais il y a enfin je sais pas si c'est vraiment un spoiler, mais tout ce monde des morts que le film décide de nous faire découvrir par l'intermédiaire du personnage du protagoniste, je trouve ça vraiment très très beau, c'est très poétique. Je suis tout à fait saisi par le climax émotionnel du film, et comme Arnaud, j'ai l'impression que, alors même que ça démarre sur les chapeaux de roue et que très très vite et de manière assez efficace en fait d'un point de vue dramaturgique, l'enjeu du film est posé dès l'exposition. Il faut une scène pour nous faire comprendre quel va être l'enjeu du personnage qui est dans le synopsis. Quoi. C'est une famille qui en fait a été victime d'un mauvais sort lié à la musique, et donc de génération en génération on bannit tout ce qui de près ou de loin peut produire de la mélodie, quoi. Et on comprend assez vite que le protagoniste de l'histoire va être un gamin qui lui est obsédé par l'idée de devenir musicien, et en fait c'est très très fort. Et entre cette exposition là et le moment où on va finir par recoller les morceaux, se passe pas mal de temps dans un univers très très riche, mais où on a l'impression de déconnecter un tout petit peu.
On a l'impression de faire du tourisme d'univers. En
exactement,
fait,
ouais, c'est ça. C'est pas désagréable, mais du coup on perd un peu en émotion. Et je me suis fait une autre remarque. Mais ça a à voir un peu avec la question du méchant, quoi. À nouveau, je sais pas si c'est tout à fait du spoiler, on pourra développer tout à l'heure, mais en fait, pour les raisons qu'on évoque là, le méchant apparaît assez tard dans le film. Et en fait, ça a des conséquences non négligeables, c'est-à-dire que comme c'est une histoire de famille, on comprend bien que du coup, la relation que le méchant entretient avec les différents, avec le protagoniste et les personnes qui l'entourent, va nous permettre de comprendre vraiment ce qui se joue au sein de cette famille. Et ça donne l'impression que toute la fin se déroule très 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 vite. Alors même que on aurait envie que ça prenne
un peu plus d'ampleur
son temps ici. Ouais.
Mais il faut dire que on peut pas lui reprocher justement un côté non climactique à cette fin, parce que justement on a l'impression qu'il se passe tellement de choses que on en a pour notre argent dans cette fin, tu vois, parce qu'en gros tout se résout un petit peu.
Il y a même
peu,
un côté finalement, l'intrigue, c'est une intrigue de telenovelas, quoi. Il y a quelque chose
peu,
de
ouais.
Les malédictions familiales, ouais. les personnes qui ne sont pas ce qu'elles semblent être.
C'est vrai.
La découverte de nouveaux membres de la famille,
qui est
assez jouissif, mais c'est vrai que tout est ramassé dans le même moment, alors que si ça avait peut-être été dilué un petit peu, tu vois, tout le long du film.
C'est à voir. C'est un choix, mais c'est. Mais je sais pas si on aurait eu aussi le même impact, parce que bon, au final, quand on connaît toute la fin, tu te dis. Ah oui, c'est pas bête non plus d'avoir passé plus de temps avec certains personnages. Enfin, je vous rejoins totalement, j'ai trouvé ça très bien, très drôle, assez captivant aussi d'un point de vue visuel. Je trouve que c'était le monde des morts. J'étais très fan de toutes les créations de ce monde, là, cette ville faite de lumière, également les bateaux volants que tout le monde prend. Vraiment, très, très riche. Et c'est vrai que peut-être parfois on a pu se perdre un peu comme si c'était comme si on entrait dans un parc d'attractions, hein, tu vois, en mode Star Tour, ouais. Et on va te faire visiter en oubliant un petit peu pourquoi on est là. Mais,
il y avait ça dans Zootropolis.
Zootopia, ouais.
Zootopia.
Ouais.
Qui est un beau film, hein,
ouais, que moi j'ai trouvé.
Alors pour le coup,
formidable.
Par contre,
dans
Zootopia, la richesse du monde était quand même utilisée dans l'histoire aussi.
Enfin,
voilà,
c'est
quartier,
ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que Zootopia, c'était une analyse systémique du racisme institutionnel. Donc il y avait quelque chose de beaucoup plus juste. Non, mais c'est vrai, c'est ce que c'était Zootopia. Et il y avait quelque chose de beaucoup plus justifié à s'attarder justement sur cette société et comment elle fonctionne. C'est-à-dire que ici, finalement.
Ça produisait vraiment du sens.
Il y a rien. Sur la société des morts. À part le. Il n'y a rien dans le sujet qui nécessite en fait de s'attarder dans la société des morts.
Ouais, bah en fait, on le comprend très vite dès lors qu'on comprend le lien que les morts entretiennent avec leur famille.
Ouais.
Et il y a juste. Il y a un élément d'information à obtenir qu'on obtient assez vite, c'est que si les morts sont oubliés par leur famille, alors ils finissent par disparaître et à passer du monde des
vers le monde des super morts,
subir une deuxième mort.
Mais voilà. J'y pense parce qu'en fait ça me fait penser, il y avait quand on était jeune, il y avait un jeu vidéo avec Areski qu'on aimait beaucoup,
Grim
qui s'appelait Grim Fandango.
Ouais.
Et qui se passait aussi dans le monde des morts mexicains comme ça. Mais ce qui est marrant, c'est que c'était très différent, c'était pas du tout le même propos. C'est-à-dire que ce qui était très drôle dans ce monde des morts décrit dans Grim Fandango, c'était que c'était finalement un jeu vidéo sur la corruption. Et donc on s'attardait sur la société des morts et en fait qui échangeait des âmes et qui échangeait les bonnes grâces comme si c'était du capital en fait. Mmh. Et il y avait quelque chose de très drôle à s'attarder dans cette société où les gens sont morts mais continuent à s'accrocher en fait aux possessions matérielles et ça devenait une satire de la société très drôle, mais ce qui est pas le cas ici
il y a une mini promesse au début de voir ce genre de choses que j'adore, qui est très Tim Burtonien aussi, de en fait la mort ne te délivre pas de la bureau. Tu sais, on est obligé de prendre des photos pour être sûr que tu peux partir dans le monde des vivants lors du jour, etc. C'est des trucs un peu voilà dans Beetlejuice, Grim Fandango comme tu le disais,
oui,
enfin, ça existe. Il y a
pas encore la police dans le monde des morts.
Oui, voilà, ouais. Exactement. Et c'est drôle. Et c'est vrai que bon, on s'en échappe un petit peu pour au final voir la vie, une seconde vie, quoi, de personnes qui sont mortes. Mais j'aimerais juste tirer mon chapeau parce que les thèmes du film, le pouvoir de tes rêves, l'importance de la famille et le respect de tes aînés. C'est le trio parfait pour que normalement je regarde pas ton film. Et ça me le vend trop bien. Ça me le vend
mais
tellement
parce...
bien que ça,
mais,
ça
mais,
te tire
mais
des larmes à la
c'est,
fin du film.
C'est,
et c'est vraiment
c'est,
génial.
C'est quand même attaqué, c'est quand même attaché à autre chose d'un peu plus étonnant, surtout dans un film d'animation. Bon, on ne devrait pas être étonné de voir ça chez Pixar parce qu'ils ont abordé des thèmes très lourds. Je veux dire, quand dans Toy Story 3, ils parlent de l'obsolescence, ouais. Quand ils parlent de la vieillesse et de la mort dans Up. Et c'est-à-dire, ici, ils s'attardent à quelque chose que j'ai pas tellement vu ouais dans des films d'animation, qui est l'héritage qu'on laisse une fois qu'on est mort. Et le film va s'attacher à ça. Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce qu'on laisse dans le monde des vivants une fois qu'on est mort? Et ce qui est marrant, c'est que donc on parle de la fête de El Día de los Muertos, donc la fête de la Toussaint. À aucun moment la religion n'est mentionnée. C'est-à-dire, j'ai même pas l'impression qu'on voit une croix du Christ, ouais, en fait, dans vrai. Le film. Et au-delà de ça, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que quand on est dans le monde des morts, on se rend compte, ça c'est assez vite, hein, c'est pas vraiment un spoil, mais que les esprits des morts disparaissent une fois que plus personne ne pense à eux sur Terre. Et donc en fait, ce que développe le film, finalement, c'est un point de vue très très athée, qui est de dire que qu'est-ce qu'on laisse dans le monde, c'est le souvenir qui est laissé dans les vivants, et que ceci va disparaître une fois que la dernière personne que tu as connue sur Terre disparaît aussi. Et finalement, c'est un film qui est très très athée de ce point de vue-là, où on va rester dans les souvenirs des morts, mais que c'est quelque chose de très très attaché au monde des vivants. Et je trouve ça assez audacieux, en fait, d'avoir abordé le film de cette manière.
Ouais, parce que c'est pas non seulement c'est pas marqué d'une certaine empreinte le monde pendant que tu es vivant, mais c'est surtout marqué des personnes. En fait,
ouais.
Là, on retrouve vraiment l'humain, et donc c'est très intelligent.
Mais même par rapport à la célébrité, c'est-à-dire qu'en montrant ce chanteur mort qui s'attache désespérément à sa notoriété, à ses fans, etc., etc., en fait, il parle aussi de la création, c'est-à-dire pourquoi on fonde une famille, pourquoi on décide de devenir artiste, etc. C'est qu'au fond, il y a toujours quelque chose de... On a envie d'être éternel, de rester, tu vois, ouais. parmi les souvenirs une fois qu'on est mort et qu'on s'attache à ça. Et pareil, c'est quelque chose que je trouve assez audacieux de développer dans un film d'animation, tu vois.
Moi, je suis assez d'accord avec ça et je trouve que c'est effectivement assez remarquable. J'ai quand même l'impression qu'ils auraient peut-être pu essayer de... Enfin, être un peu plus critique à quelques endroits, et je trouve que c'est ce qui fait, par exemple, la qualité de Zootopia, comme tu disais tout à l'heure, sur la question du...
Je te sens marcher sur des œufs niveau spoiler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner nos miams et on va passer en spoiler directement. Parce que moi, alors, il faut que je dise, ma note peut changer en fonction de certaines questions que j'ai dans la version spoiler. Pour l'instant, je vais donner 4 miams, mais ça peut être plus. Mm-hmm. Voilà.
Moi je vais mettre 3,5 parce que même si j'ai beaucoup aimé, pour moi il est pas aussi bon que les grands chefs-d'œuvre de Pixar qu'ils ont pu faire il y a quelques années, voilà.
Ouais, je suis d'accord, j'avais pensé 3,5.
OK. Aussi. Parfait. Alors bon, on peut rentrer du coup dans la section spoiler. N'écoutez plus si vous avez pas vu Coco parce qu'il y a des twists, et c'est des twists cool, en fait. Il y a certaines choses qu'on voit venir, mais il y en a d'autres un petit peu innovantes et inattendues, donc c'est cool, en fait. Miguel est aidé d'un espèce de vagabond, d'un mort vagabond qui s'appelle Hector, pour retrouver donc le musicien de la Cruz qu'il croit être son arrière-arrière-arrière-grand-père, parce qu'il a une photo qui indique la même guitare dans sa famille. Et c'est vrai que, on parlait tout à l'heure de certaines parties où parfois ça se perd, et c'est le mécanisme un peu de film de détective d'aller à un endroit pour trouver un autre endroit et finir par trouver la bonne personne. C'est un peu là que parfois ça se perd dans le sujet général du film, c'est-à-dire que après être passé à son premier concours de chant pour essayer de gagner une place pour voir son arrière-arrière-grand-père, ça se perd un petit peu. Vous avez ressenti la même chose? Mais un peu,
je pense qu'il y a quelque chose qui vient de l'extrême complexité finalement de cette histoire. Alors il n'y a aucune incohérence, ce qui n'est pas étonnant étant donné qu'il y a eu 35 scénaristes qui ont bossé sur le film à peu près. Enfin, c'est la première fois que je vois ça presque. C'est la partie scénario du générique est aussi grande que la partie lumière dans un film traditionnel. Tu vois, il y a tout un tas de scénaristes qui s'y sont attachés, ce qui fait qu'il y a... Il n'y a pas un pet qui dépasse comme ça, mais j'ai l'impression que, en fait, ils ont mis énormément d'énergie à essayer de rendre cette histoire très complexe, cohérente, à lui trouvant toujours des petits addendums pour essayer de la raccrocher à l'histoire principale. Alors que, en fait, finalement, si l'histoire avait été plus simple, ils n'auraient pas eu besoin de faire tout ça.
Je me suis d'ailleurs même demandé si pour un jeune public, tu vois, des enfants de 7 à 10 ans, il n'y a pas des twists, justement, ou, enfin... ou des articulations qui risquent d'être un peu compliquées.
J'aimerais juste donner des exemples, tu vois, de cette extrême complexité. C'est-à-dire que donc cet enfant croit que le grand Ernesto de la Cruz est son aïeul. Et le problème, c'est que il a une arrière arrière-grand-mère qui est toujours vivante, qui a connu son père. Et donc, pour justifier le fait que il a jamais confronté cette théorie à sa grand-mère, ils mettent ce fait, tu vois, qui s'intègre plutôt bien au film, mais que la musique est absolument interdite dans cette famille. Ensuite, tu vois, il y a plein d'autres choses, c'est-à-dire qu'il faut pas qu'on sache que Hector est le véritable arrière-grand-père de eux. Donc, ils se débrouillent pour faire en sorte que pendant une très très grande partie du film, Imelda, qui est son arrière-grand-mère, ne voit jamais ce Hector. Et à chaque fois, tu vois, j'ai l'impression vraiment qu'ils adaptent le scénario pour faire en sorte qu'on n'évente pas les twists. Ils adaptent le scénario pour faire en sorte que cette histoire de malédiction et de bénédiction, elle est extrêmement complexe. Il faut que tu retrouves un membre de la famille qui ont le droit de mettre des conditions à ce que tu fais, qui ont machin et tout ça. Et à chaque fois, ça rajoute de la complexité pour que la quête soit cohérente. Et comme je dis, il y a rien qui dépasse, c'est-à-dire je trouverai aucune incohérence dans ce scénario, mais je le trouve un peu trop complexe, si tu veux, pour que vraiment il y ait un attachement beaucoup plus fort au personnage.
Et d'ailleurs, le moment où Miguel se retrouve dans le monde des morts, c'est-à-dire en fait on doit comprendre que c'est-à-dire que ce qui se passe dans le scénario, c'est que dans le monde des vivants, il veut saisir son opportunité. Ça c'est presque d'ailleurs un motif plus américain que latino-américain pour finalement vivre son rêve et accomplir sa destinée à l'image du musicien qu'il ne pense à ce moment du scénario pas être encore son illustre aïeul mais juste le meilleur musicien du monde et donc contre l'avis de sa famille il veut aller se produire sur la place des mariachis du village à l'occasion de la fête des morts pour éventuellement gagner un concours de musiciens et comme sa grand-mère sa grand-mère a trouvé sa petite guitare de fortune qui s'est fabriquée tout seul qu'elle l'a détruit donc pour qu'il ne puisse pas jouer de la musique, il doit trouver une guitare. Et c'est là qu'il se rend au cimetière et qu'il a l'idée d'aller dans le comment on appelle ça, le caveau dans lequel est enterré de la Cruz pour lui emprunter sa guitare et aller se produire sur la place des mariachis. Et c'est au moment où il se saisit de cette guitare que, dans une plutôt jolie séquence par ailleurs, il se rend compte qu'en fait, il a basculé dans le monde des morts et que il est devenu invisible des vivants. Et juste ce moment-là, même encore aujourd'hui, j'ai un peu du mal à comprendre exactement comment le scénario le justifie. C'est-à-dire parce qu'il a touché la guitare de la Cruz, qui en fait, on le comprend plus tard, et à nouveau, je pense que c'est un exemple de la complexité du scénario.
C'est la guitare d'Hector.
À ce moment-là du scénario, on pense que c'est la guitare de la Cruz, mais on comprendra plus tard que non, c'est la guitare d'Hector que de la Cruz lui a volée. Parce que, et là, gros spoiler, De La Cruz a en fait assassiné Hector pour lui voler son répertoire de chansons pour pouvoir continuer à devenir un musicien célèbre.
Très télénovelas d'ailleurs, ça aussi.
Je viens de me rendre compte d'un truc.
c'est hyper télénovelas.
Il y a une incohérence en fait à ce niveau-là, une fois que tu arrives à la fin du film, c'est-à-dire que comme tu le dis, il a été maudit parce qu'il a volé quelque chose à un ancêtre de sa famille. Et du coup, il y a un agent de l'administration du monde des morts qui lui dit, écoute, tu as tiré la malédiction de ta famille en volant la guitare de ton aïeul, et maintenant il va te falloir la bénédiction des membres de ta famille pour pouvoir retourner dans le monde des vivants. Et à ce moment-là, en fait, ça fait tiquer personne de sa famille de dire, attends, mais t'as volé la guitare de Ernesto de la Cruz, il a rien à voir avec notre famille, ce type.
Ils doivent le savoir, mais d'ailleurs...
Ils doivent le savoir et ils ne disent rien.
Mais plus tard dans le scénario, quand dans le film... même Miguel confronte sa famille et leur dit je vais voir mon grand-grand-grand-père, j'en ai quand il est tout seul avec sa grand-mère, enfin avec son aïeul Imelda,
ouais.
Et qui essaye de le poursuivre et lui s'enfuit et là elle se met à chanter,
ouais.
et donc on comprend qu'elle a été chanteuse et à ce moment-là du scénario, sauf pour celui qui a été un peu perspicace et qui s'est rendu compte déjà à ce moment-là, c'était pas mon cas, que De La Cruz n'était pas son aïeul, mais que c'était Hector, on se dit « Ah tiens, en fait, Imelda a été chanteuse avec De La Cruz. » Et là, Miguel lui dit « Non, mais moi, je veux aller voir mon grand-grand-grand-grand-père De La Cruz. » Imelda, elle devrait lui dire, mais c'est pas lui.
Non, il ne dit pas de la... Moi, j'ai fait... Alors, personnellement, là j'avais vu... j'avais vu personnellement le truc à partir du moment où Hector se met à jouer de la guitare. Je m'étais dit, ah, en fait, c'est lui son vrai grand-père. Et on va découvrir que, donc à ce moment-là, je le savais. Et quand Imelda l'arrête, j'ai bien fait attention pour voir comment ils avaient construit le dialogue. Et ils sont très filous parce qu'ils devraient dire, je vais voir Ernesto de la Cruz, le grand-père. C'est ce que devrait dire le personnage. Et ils font bien attention à ce qu'ils ne prononcent pas le nom de la Cruz pour que la grand-mère ne puisse pas l'arrêter, tu vois.
En fait, moi, c'était a posteriori que je reconstruisais le dialogue, comme à ce moment-là du scénario.
Moi, j'ai une seule question. Je vais faire un bond totalement en avant dans l'épilogue du film. Comment ça se fait qu'Hector ne soit pas super mort, sachant que sa fille est morte. Donc, personne ne l'a connu de son vivant. Parce que c'était ça, le truc.
Les gens connaissent ses mélodies.
Et ouais, mais ils l'ont pas connu de son vivant. C'est ça, le truc. Parce que tu sais, à un moment, Miguel, à un moment, il lui dit non mais c'est bon, moi je te connais, du coup quand je repartirai ça ira. Il lui dit non, il faut me connaître dans...
Ouais, mais du coup il doit y avoir encore des gens vivants qui ont écouté pendant qu'il était encore vivant les mélodies de Hector, qui sachent maintenant que Hector est l'auteur de ces mélodies, qu'ils l'ont en tête, et du coup il peut rester un petit moment de plus, je sais pas.
Mais ça a pas été présenté.
Mais encore une fois, c'est d'une complexité avec
bien sûr. C'est ça, le truc.
Mais il y a quelque chose, tu vois, pour revenir sur cette complexité ahurissante, c'est-à-dire que moi, vraiment, j'aurais aimé quelque chose de plus simple, parce que c'est vrai que, étant donné qu'il y a tellement de complexité dans ce fait d'être vivant, à moitié vivant, mort, etc., que, en fait, le drame d'Hector, j'ai eu du mal à le ressentir, alors qu'il est très fort à la base. C'est un fantôme qui veut pas disparaître. En fait, et ça aurait pu être beaucoup plus fort que ça si ça avait été beaucoup plus simple que ça, en fait.
Le film n'est jamais aussi beau que lorsqu'il est simple.
Ouais.
Est-ce que c'est pas un choix? Tu parlais vraiment de telenovelas, et plus ça va, plus je me dis oui, ça ressemble beaucoup à ça, et complexifier les histoires, c'est très très telenovelas, quoi.
Ouais, mais alors c'est rigolo, je suis le premier à le dire, de retrouver comme ça une intrigue de telenovelas. Mais en fait, je trouve ça beaucoup moins fort qu'une histoire beaucoup plus simple de tu vois de même si c'est conscient, c'est on peut critiquer ce choix, tu vois ce que je veux dire.
Du coup, les personnages sont confrontés à des situations ou des potentiels dangers qu'on a du mal à ressentir. Miguel, qui à un moment dont on comprend qu'il est en train de disparaître, et on voit ses os à travers sa peau devenue translucide, et on lui dit tu as jusque au lever du soleil pour retourner dans le monde des vivants, sinon
encore
tu vas rester
encore
dans
une
le
règle
monde
arbitraire qu'on rajoute.
Exactement. c'est une règle complètement arbitraire, mais du coup, c'est-à-dire pendant tout le film, on voit, c'est un peu comme l'épée de Damoclès qui pèse sur la tête de Miguel, et ça crée un effet sablier, quoi, le temps lui est compté, mais en même temps ça produit pas du suspense pour autant, et c'est difficile de voir le danger qui pèse ou de le ressentir vraiment profondément, le danger qui pèse sur le personnage. Et à nouveau, ça donne l'impression d'une couche supplémentaire de complexité qui finalement, je vais pas dire que ça nuit au film, mais ça n'apporte pas grand-chose.
En fait, le plaisir du récit prend le pas sur le plaisir des personnages. Ouais, c'est ça, en fait, que rajoute ces couches de complexité comme ça. C'est-à-dire que le récit se tient, il y a quelque chose de très haletant dans le film. Et au niveau émotion, c'est moins présent pendant tout le film. Ouais. Même si je dois dire que à la fin du film, moi, il y a une scène qui m'a fait chialer et que j'ai trouvé vraiment sublime. C'est le moment où Miguel retourne dans le monde des vivants, va voir son arrière-arrière-grand-mère et lui chante la chanson de son père, qui est Rappelle-toi de moi. Et à ce moment-là,
la chanson d'Hector, quoi, du coup.
D'acteur, ouais. Et à ce moment-là, il y a quelque chose de très beau et que seul le cinéma d'animation peut faire, vraiment. C'est-à-dire qu'on a cette grand-mère qui nous a été présentée comme un objet dans un fauteuil roulant pendant tout le film, complètement amorphe, tu sais, avec toujours le même sourire, toujours la même position. Et tout d'un coup, quand elle entend cette chanson, elle se met littéralement à s'animer. Et il y a les doigts qui commencent à bouger, il y a son visage qui commence à s'animer. Et là, il faut vraiment saluer le travail des animateurs qui sont incroyable à ce moment-là. Quand je la vois s'animer, il y a un truc émotionnel qui arrive tout d'un coup. La relation qui existe entre cet arrière-arrière petit-fils et cette vieille dame, il y a quelque chose de vrai, de vivant qui s'apporte au personnage. Pour moi, ça rattrape tout ce moment-là, quoi. Ouais. Vraiment.
Ah, mais je suis entièrement d'accord. Et ça, d'ailleurs, c'est permis parce que en amont nous est raconté la rencontre entre Miguel et Hector. Et qu'on comprend l'attachement qu'a Hector pour sa fille Coco, qu'il n'a jamais rencontrée. Mmh. Enfin, qu'il n'a jamais rencontrée, qu'il n'a jamais revue.
Revue, ouais.
Puisqu'il a été oublié du monde des vivants. Enfin, pas complètement oublié, mais qu'en tout cas, il n'a pas été... On n'a pas mis sa photo sur les offrandes, et donc il n'a jamais eu la possibilité de revenir dans le monde des vivants le jour de la Toussaint. Et en fait, ici, Miguel veut aussi honorer la mémoire de son aïeul Hector et lui permettre de rester dans la mémoire des vivants, quoi.
En termes de ce qu'ils veulent raconter, il y a quelque chose d'assez compliqué à la fin. C'est-à-dire que la chose qui m'a un peu déçu, c'est ce fait de dire que finalement, justice a été faite et les gens se rendent compte que ces mélodies qu'ils adorent, c'est les mélodies qui ont été créées par Hector. Je pense que c'était pas nécessaire. Étant donné que le but du film, c'était justement pas de dire que l'important, c'était le rapport que tu as entretenir avec les gens que tu aimes autour de toi.
Ouais,
et que c'était
sûr.
Pas forcément en fait cette reconnaissance
c'est...
publique.
Certes,
que tu
mais
vois...
c'est aussi défendre sa famille, parce que quelque part ça veut dire que aussi
mais
il
bien,
a défendu
mais bien sûr,
Hector
mais,
quand
mais,
il est,
tu
quand
t'en
il est revenu,
tu t'en rends bien compte qu'il y a quelque chose de compliqué. C'est-à-dire que dans ce monde des morts qu'ils établissent, avec cette idée qu'une fois que tu disparais du souvenir des vivants, tu disparais complètement, ils ont été obligés encore une fois de rajouter cette règle de dire oui mais les gens ont été obligés de te rencontrer de ton vivant. Parce que du coup, en fait, ce que raconte le film et ce qui existe vraiment dans la vraie vie, c'est que, en fait, les gens célèbres vivent plus longtemps que les autres. C'est-à-dire qu'on se souvient toujours de Victor Hugo ou de Dante, tu vois, alors qu'on se rappelle plus des inconnus qui sont bien occupés de leur famille pendant leur vivant. Ils ont pas envie que le film raconte ça, et du coup, ils rajoutent cette règle de dire si, mais tout le monde finit par disparaître parce qu'il faut l'avoir connu de son vivant, et ce qui est important, c'est d'avoir laissé une marque auprès de sa famille, et pas d'avoir laissé une marque auprès du reste du monde. Et or, on a un scénario, en fait, qui dit un petit peu le contraire en même temps, et donc on rajoute ces règles pour essayer de retomber sur les pieds et de dire non, c'est pas dégueulasse ce qu'on raconte, etc., etc. Mmh. Alors qu'en vrai, si tu déroules juste ce fil qui disent que en fait quand on meurt on n'existe que dans le souvenir des gens, ben force est de constater que Jules César ou Mozart sont restés plus longtemps dans l'esprit des gens que les inconnus, quoi. Et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué
mais le film, scénario est pas tout à fait clair à cet endroit. Et d'ailleurs, enfin, je vais revenir du coup à ce que je voulais dire juste avant qu'on passe à la partie spoiler. En fait, j'ai l'impression que il y a deux éléments un peu thématiques que le scénario aurait pu se permettre d'investir et qui sont des pistes de réflexion avec lesquelles il aurait pu aussi se permettre de produire une pensée un peu plus critique. C'est d'abord le rapport qu'on entretient avec la mort dans notre société. Notre société occidentale, alors c'est peut-être pas le cas du Mexique, je connais pas suffisamment, mais c'est vrai qu'on a tendance à laisser la mort de côté, à l'ignorer, à faire du déni, on s'occupe très très mal des personnes âgées. On commence à célébrer Halloween en France, mais je veux dire, enfin, c'est complètement déconnecté de la réelle signification. La Toussaint ne veut plus rien dire pour nous, et du coup, on se désintéresse de la mort parce qu'elle nous fait peur aussi. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être ici quelque chose à investir sans forcément chercher à créer un contrepoint ou un autre point de vue que le point de vue de cette famille mexicaine, mais aussi pour nous, je sais pas, d'une manière ou d'une autre. Enfin, c'est en dernière instance ce que le film fait, mais il aurait peut-être pu, je sais pas, le faire d'une autre manière, nous réconcilier avec, avec la mort, quoi. Et du coup, avec le rapport aussi qu'on entretient avec les personnes âgées. Et c'est très beau, en fait, la relation que Miguel a avec sa grand-mère et toute l'attention qu'il y a, que la famille porte à ces personnes âgées. Et l'autre chose, c'est, mais t'en parlais un peu tout à l'heure, Arnaud, c'est, en fait, dans ce monde des morts, finalement, il y a quand même, on reproduit, enfin, sont reproduites certaines inégalités, en fait.
Oui, mais le film ne les explore pas tellement.
Le film ne les explore pas. Pas tellement. Et là, à nouveau, je sais pas, peut-être qu'il y aurait pu
c'est
avoir simplement.
Que tu vois, juste cette idée qui aurait pu être développée dans cette société, c'est que, on a l'impression que, ceux qui ont le meilleur statut, c'est ceux dont on se rappelle le mieux dans cette société. Et utiliser ça comme une source de revenus, tu vois, et de développer ça et de montrer, en fait, comment les inégalités se créent par rapport à ceux qui ont été oubliés, etc., etc., ça aurait été vachement intéressant, je trouve. Et
par exemple, quand, passe un peu à côté quand de ça. Ils doivent aller à la soirée de la Cruz parce que Miguel veut rencontrer son aïeul pour obtenir sa bénédiction, quand il pense encore que c'est son arrière-grand-père. C'est assez amusant. Il développe l'idée que, en fait, pour rentrer dans cette soirée, il faut être VIP, il faut avoir une invitation, etc. Je sais pas, il aurait pu avoir peut-être un petit...
En tout cas, c'est pas critique, toutes ces choses-là,
c'est présenté de manière comme
pose,
un acquis, mais il
ouais,
les
pose
sans,
il le pose comme des pistes
sans produire
à explorer,
de
ne
discours,
serait-ce que
il n'y a pas de discours sur
par,
ça. Ouais.
Par exemple, ce qui aurait été pas mal, ça aurait été de prendre le contre-pied de ça et peut-être d'essayer de nous faire rire, comme s'il y avait des VIP de la mort, par exemple. Tu vois, quelqu'un qui ne serait pas du tout connu dans le monde des vivants, mais, je sais pas, inventer un concept qui fait ouais. que, par contre, dans le monde des morts, il est connu, donc c'est un VIP, et tu vois, essayer de peut-être diluer justement ce truc de célébrité que dans un seul sens, en fait. Mais c'est vrai que, oui, on reprend exactement tous les codes de la vie, et ça, on ne souligne pas le changement de culture à ce niveau-là, en fait, tout simplement.
Sans nous aider à nous... En fait, ça nous invite pas à nous poser des questions sur notre ouais. propre société, notre propre système de pensée. Ce que fait, je trouve, admirablement, Zootopia. Et je pense que c'est ce qui distingue un peu les deux films. J'ai l'impression qu'il fait que Zootopia, je trouve
que
c'est
Est-ce que ça
un
ferait pas trop de thèmes de fond à aborder? Parce qu'au final, on
Mais
a...
D'où la vraie question, est-ce qu'il y a eu trop de scénaristes sur Coco, en fait? Mais vraiment, c'est une vraie question, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que le film, tu vois, comme on l'a dit, il part à un endroit, il va à un autre, pour après revenir à cet endroit. Est-ce que c'est pas le fait qu'on a multiplié un petit peu trop les points de vue, qui sont chacun partis dans leur direction pour ensuite essayer de retomber sur leur pas? Est-ce que ça a pas... Je sais pas, c'est
je
une question
pas.
Que je
Parce
pose,
qu'après,
tu vois, comme ça.
C'est
mais...
ce que... Pas mal de choses que tu reproches, c'est aussi du world building. Alors certes, c'est un peu trop de couches sur d'autres couches.
Ouais.
Mais ça se défend, en fait. C'est-à-dire que je vois comment ça peut être un choix pour ton film. Parce que effectivement, ça fait passer plus de temps avec Hector pendant tout le milieu du film, et que donc on est un peu plus, comment dirais-je, tranquille quand on se rend compte que c'était lui son aïeul et pas de la Cruz. Donc bon, ça s'équilibre. Mais c'est vrai que ça nous laisse un petit peu ce petit coup d'inachevé pour certaines choses. Mais on a quand même la personne qui veut s'extirper des codes familiaux pour réaliser ses rêves, et on a tout le truc familial de souvenons-nous de nos ancêtres. C'est déjà deux gros morceaux. Ton premier point, Robin, sur la mort, la réflexion sur la mort, j'aurais bien aimé avoir le contrepoint culturel, je sais pas, d'une famille américaine qui va jamais voir les ancêtres, tu vois, ou un truc comme ça.
Ouais, après, c'est peut-être pas le projet du film, hein. Je sais
oui,
pas,
bah
peut-être
c'est ça.
Ici j'extrapole un peu, mais...
Allez choisir, mais...
En tout cas, disons que j'ai l'impression que ça demande un réel effort d'en arriver à se poser ces questions-là. Alors, en tout cas, c'est uniquement a posteriori qu'on le fait, et pas vraiment
pendant
le film, et
Pendant, c'est, franchement, c'est un manège parce que tu n'as pas le temps de te poser ce. Tu vas, c'est tellement une course à trouver de la cruse, une et puis aussi un émerveillement à chaque fois qu'on découvre une nouvelle chose dans le monde des morts.
Et encore une fois, tu vois tous ces trucs un petit peu exogènes, c'est-à-dire il y a une blague vachement récurrente dans le film où on a l'impression en fait que la personne la plus en vue du monde des morts, c'est Frida Kahlo. Ouais. Qui est revue tout le temps, tu vois, comme une espèce, et on la rencontre à un moment donné qui est devenue chorégraphe pour des
pour de la cruise en fait,
pour des shows, et c'est-à-dire que là à nouveau, tu vois, il y aurait eu quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire c'est la seule personne du monde réel qui est dans le film et qui est une des Mexicaines les plus célèbres de tous les temps. Il y aurait eu quelque chose à développer autour de ça, et j'ai l'impression que c'est juste un à côté un petit peu rigolo, tu vois, comme ça.
La scène est très drôle quand même, quand elle parle.
La scène est très drôle.
En tant qu'artiste de la chorégraphie qui se passe. Ouais, ouais. Et on va mettre mon visage, je pense. Mon visage sur le <pétis. rire>
Mais c'est aussi drôle parce qu'on a vu Hector se travestir en Frida Kahlo dans la première séquence où on le découvre pour essayer de passer le pont.
Ah ouais, on a des callbacks qui sont intelligents, hein. C'est pas mal. Mais est-ce que vous avez des choses en plus à dire sur Coco? Ben finalement, moi je ne réévalue pas ma note parce que je l'achète moyen, cette solution des gens se souviennent de toi, parce que c'est pas ce qui avait été dit.
Ouais, c'est un peu facile.
Moi, je trouve ça un peu facile. Ah, ouais, voilà. Ouais. Oui, pardon, t'as eu une question du coup.
Non, ouais, je c'est une question ouverte, mais est-ce que le film aurait pas gagné à introduire plus tôt, enfin à révéler plus tôt la vraie nature de Dela Cruz pour avoir un méchant qui ait plus de consistance et je sais pas, dont la trajectoire développe de manière plus sur la longueur.
Dès qu'il le rencontre, tu sais, on te fait un petit montage de je vais passer du temps avec mon petit arrière-petit-fils. Et en fait, c'est vrai que si tu l'avais mis dès le milieu du film, tu aurais pu un peu plus étaler tout ça et petit à petit nous faire rentrer dans cette forme de pensée totalement reconnue par tout le monde qui est je voulais juste devenir connu. Et se rendre que petit à petit, il est un peu puant, ce personnage. Ça pourrait être mal.
Je pense que le personnage est vraiment sous-exploité. Et d'ailleurs, toute la dimension un peu critique qu'on aurait peut-être aimé voir dans le film, elle aurait pu venir de ce personnage, quoi. Le type prêt à tout pour réussir, pour avoir du succès, dans le monde des vivants comme dans le monde des morts. C'est-à-dire qu'il n'apprend même pas de ses erreurs, alors que le scénario pense bien à mettre en scène l'ironie tragique, puisque finalement, dans le monde des vivants, il se fait tuer par une cloche qui lui tombe dessus pendant un spectacle. C'est-à-dire que le personnage est maudit, en fait. Mais tout ça, ça demeure assez anecdotique, mais enfin, c'est des éléments de narration qui sont pas tout à fait investis.
Ouais.
Et en plus, pour revenir sur la mécanique et du coup sur le rôle que jouent les scénaristes sur des films comme ça d'ailleurs, et je reviens encore à Zootopia, il y avait un peu cette mécanique là dans Zootopia où pendant tout le premier toute la première partie du film, on pense que le méchant est le maire de la ville, et en fait on découvre à un moment que en fait non, c'est l'assistante du maire, la brebis qui
ne passe plus aux apparences.
Ouais, ça y est. Et à nouveau, je trouve que ça autant ça fonctionnait vraiment très bien dans Zootopia, ce twist là, autant là je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il tire le meilleur parti du personnage, quoi.
J'aimerais juste avant de finir dire que quand même, malgré tout, tu vois, c'est un film qui m'a plu, même si c'est un film qui a beaucoup de défauts. Parce que même si c'est, tu vois, il tombe un peu dans le piège de devenir un manège, comme Areski l'avait dit, comme ça, un voyage dans une fête foraine, c'est quand même un film qui prend le temps d'installer ces éléments au début, d'installer, tu vois, cette famille, d'installer ce personnage, etc. Et qu'on voit de moins en moins dans le cinéma.
Ouais, toute l'exposition est formidable.
Qui finit à la fin par émouvoir quand même en retombant sur ses pattes. Ouais. C'est pas si mal.
Non, mais franchement, là, on... Enfin, on cherche la petite bête,
oui,
mais,
oui,
mais clairement...
les miams en parler, on l'aime bien.
On est quand même en train de dire que les défauts du film, c'est
pas parler de la mort.
Oui, c'est ça.
C'est
la complexité du scénario et c'est lié au fait que il y a un paquet de gens intelligents à Hollywood qui sont creusés les méninges pour réussir à faire fonctionner un univers.
On est en train de critiquer les premiers de la classe là. On est en train de dire tu peux faire mieux pour la prochaine fois, hein, mais pas du tout en train de dire que non. Mais c'est fou parce que c'est vrai que cette histoire d'exposition dans ce film, et d'ailleurs de manière générale dans les films Pixar, c'est enfin de l'exposition de personnages dans des actions, tu vois. Parce que là, c'est inadmissible. Enfin, je sais pas si vous verrez ce film ou si vous écouterez l'épisode juste d'avant de C'est tout pour moi. Mais les voix off et les dialogues pour exposer des situations, ça suffit. C'est que ça sent la série de CBS, tu sais, en mode mais enfin, Jessica, tu es une avocate à succès. Comment ça se fait que tu es célibataire? Tu vois, je ferme ta gueule. Alors, comment essayer d'expliquer la Bible de la série en une scène, tu sais? Alors, c'est pas possible. Les gens qui font pas leur travail comme ça, c'est... Et Pixar fait son travail, et ça fait plaisir.
Oui, voilà, c'est ça. On sent qu'il y a vraiment du travail, une vraie volonté de bien faire. Il y a de l'intelligence, de la poésie. C'est beau, enfin... Non, c'est quand même... Ça vaut vraiment le détour.
Voilà. Bon, bah clairement, je recommande à 100%, spécialement en ce moment, ouais, au cinéma, donc...
Et attends, allez-y. Et du coup, petite question, nous, on a entendu Remember Me, en espagnol, c'est...
Recuérdame. Et c'est très bien, ouais, c'est très bien. D'ailleurs, chose marrante, moi, pour revenir au truc de VO, V espagnol, sur ma place de ciné, c'était marqué VO, c'était pas marqué version espagnole, hein, donc je...
Ouais.
Voilà, ce qui est techniquement faux. Mais quoique, sur la fiche IMDb, il y a marqué anglais, espagnol. Alors, je sais pas ce que ça veut dire.
Non, mais
parce qu'il y a quelques mots en espagnol. Ouais.
C'est-à-dire que si tu regardes sur la fiche IMDb, par exemple, de There Will Be Blood, il y a marqué, ouais, langage, anglais et American Sign Language. Parce qu'il y a trois phrases où il y a où tu vois un personnage.
À ce moment-là, on met elfique, nain et tout ça pour le Seigneur des Anneaux.
Exactement. Non, mais j'ai l'impression qu'à partir du moment où t'as un personnage qui dit quelque chose du genre tu es fort, gringo, tu vois, à partir de là, ils mettront français / espagnol, tu vois. S'il y a un mot à un moment donné qui est...
Ouais, parce que les mecs se disent c'est taguer une langue, si ça rapporte des spectateurs en plus, on va le faire.
Ouais.
Ces petits coquins. Tout ça pour après mettre sur l'affiche un film en anglais et en espagnol.
Tous les moyens sont bons pour faire venir des spectateurs en salle.
Ben ouais. Attends, tous les stratagèmes pour 80 millions de dollars déjà pour l'instant pour Coco, et je pense que ça va bien continuer. Et j'ai hâte qu'en une semaine, il biffle complètement Justice League, comme ça mettra un petit peu de justice dans le monde. Film en vrac, dites-nous ce que vous avez vu peut-être récemment.
On a vu tous les deux avec Arnaud La Villa hier. On voulait aller voir Coco, mais c'était plein. De Robert Guédiguian. Et d'ailleurs, je viens de penser que, en fait, il y a un point commun avec Coco, puisque c'est l'histoire de deux frères et une sœur qui se retrouvent parce que leur père vient d'avoir un accident cardiovasculaire, j'imagine, et ils se retrouvent.
C'est devenu un légume.
C'est devenu un légume. Et on comprend que en fait il y a un peu un passé familial tumultueux, puisque la fille de la sœur alors qu'elle avait 4-5 ans est décédée alors que en fait elle s'est noyée. Tout se passe c'est comme les films de Robert Guédiguian, c'est dans une petite crique dans la baie de Marseille. Et du coup elle est comédienne, cette femme, elle avait laissé sa fille chez son père, et sa fille s'est noyée un soir par faute d'inattention, enfin, mais c'est un peu la faute de personne quand même. Elle s'est levée en pleine nuit et puis elle est allée elle a descendu les marches et elle s'est noyée. Alors Arnaud est pas tout à fait du même avis. Moi j'ai trouvé que c'était un très beau film. Clairement c'est du cinéma de papa. avec avec des voilà des dialogues très très expressifs, c'est très littéraire, très très démonstratif quoi, dans cette manière qu'il a de parler de la famille, de la vie, de la mort. Et c'est ça le point commun avec avec Coco, c'est que ça parle aussi beaucoup de la mort, mais aussi de politique, d'engagement, voilà. Et en fait il y a une donc on voit le grand-père.
Ah oui, parce qu'il y a une histoire avec des réfugiés, c'est ça,
comme un... Ouais, c'est ça, il y a des trucs, ouais, avec des réfugiés. Et on voit le grand-père sur son fauteuil, complètement immobile, apathique. Il est tout à fait, c'est un légume quoi. Et à la fin du film, il y a un moment assez beau, mais qui est pas aussi beau que dans Coco, où on le voit s'animer. C'est-à-dire, pendant tout le film, on l'a vu comme mort, et on le voit s'animer à l'évocation
Il a été fait en 3D hein, dans le film.
Le personnage est en 3D, ouais, il est plutôt bien.
Tout le budget est parti là-dedans.
Et alors, ouais. Pourquoi t'es pas d'accord avec ce petit bonheur de film de papa ?
Non, ouais, mais si tu veux, je vois ce qu'il veut dire, mais en fait, moi, c'est le cinéma que j'aime pas, quoi. C'est-à-dire que j'aime bien la dernière partie du film, à partir d'un moment à la toute fin, en fait, il trouve des enfants réfugiés et l'enjeu presque. Presque change, où en fait le but c'est d'essayer de les cacher aux autorités et d'essayer de s'en occuper. Là il y a de l'action, tu vois, c'est-à-dire il y a quelque chose qui révèle même le fond des personnages d'une manière assez directe.
Ça arrive à la fin du film.
Ouais,
ça
arrive à la
fin
du film.
C'est une question parce que j'ai vu juste la bande-annonce et bon, comme ça prend de la place dans la bande-annonce.
Ouais,
je me dis...
c'est les 20 dernières minutes.
Parce que dès le début est posée l'idée que en fait il y a un bateau qui transportait des migrants qui s'est échoué au large et du coup il y a des militaires qui les recherchent, quoi.
Et avant ça, si tu veux, il y a un enjeu familial qui est posé. Il y a tout le ressentiment de ces différents personnages. C'est-à-dire que chacun des frères et sœurs ont eu des destins différents. Que ce soit cette actrice qui a complètement quitté la famille à partir du moment où sa fille est morte, qui revient pour la première fois ici et qui a énormément de ressentiments. Il y a celui qui finalement a commencé dans le monde ouvrier, a réussi, est devenu professeur et a un autre statut. Et il y a celui qui est resté.
Mais n'a jamais réussi à écrire les bouquins, enfin à faire publier les bouquins qu'il a écrits. Parce que ces manuscrits sont restés lettres mortes. Enfin,
voilà, alors il y a tous ces éléments qui sont posés pour installer le drame familial. Et à partir de là, en fait, si tu veux, le développement, moi, ce que je lui reproche, c'est que absolument tout se développe et se résout par les dialogues. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les dialogues sont l'alpha et l'oméga de ce truc. C'est-à-dire que tout ce que je dois savoir est dit et est clairement énoncé. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autre couche de complexité, si tu veux, par-dessus pour essayer de développer ça. Donc, en fait, c'est un film que je trouve extrêmement statique et qui ne m'accroche pas vraiment avant qu'il y ait un véritable enjeu dramaturgique qui soit posé. Mais si tu veux, avant
ouais,
ça...
Mais je trouve que les enjeux des personnages sont suffisamment forts et exprimés de manière suffisamment complexe pour que je puisse être en empathie avec eux. Et surtout, en fait, ça me donne à voir leur humanité, quoi. C'est-à-dire que c'est ce que j'aime bien, c'est que c'est un monde dans lequel rien n'est si simple. Cette femme a réussi,
rien n'est simple, mais tout est dit, quoi.
Ouais, ou au moins, enfin, ou au mieux peut-être suggérer, enfin, mais je sais pas, ça me dérange pas. C'est un monde dans lequel
le jeu est pareil, je peux le comprendre, mais il y a un jeu très très théâtral, quoi. Tu vois des acteurs qui du coup essaient de lui donner. Moi, à chaque fois que Darroussin prend la parole, j'ai l'impression qu'il fait un monologue au théâtre du Châtelet. Tu vois, il y a un truc petit peu.
Ouais, je sais pas, mais ça m'a, en fait, pour moi ça a pas été un rempart à l'émotion, ça m'a pas empêché d'avoir l'impression de passer du temps avec cette famille et même c'est même pas que j'ai ressenti un processus d'identification avec ces gens-là, parce que ma famille c'est pas du tout comme ça. J'avais l'impression d'être avec eux, quoi.
Il y a même jamais de je fais semblant, c'est-à-dire l'heure est triste donc on tire la gueule, tu vois. C'est y a pas ce truc, même quand elle revient, elle pose tout de suite en fait elle pose tout de suite son enjeu de en fait j'avais pas envie de revenir, je viens pas donc je tire la gueule. Elle essaie jamais de faire ça et j'ai l'impression que tu vois si on développait quelque chose d'un peu, parce que ce qui est marrant c'est que cette histoire finalement tu vois ça aurait pu être un film de Kenneth Lonergan, tu vois, sur cette histoire familiale avec ces choses comme ça, et chez Lonergan il y aurait eu que des faux semblants tout le temps, c'est-à-dire j'ai pas envie de revenir mais je souris pour montrer aux gens et après ça va se fissurer, tandis qu'ici si tu veux tout m'imposer, tout va se développer comme ça et il y a quelque chose qui fait que j'accroche pas à cause de ça, quoi.
Les personnages veulent parler dès le début, c'est ça que tu veux dire.
Ouais, et posent leur enjeu dès le début, c'est-à-dire ils arrivent, ils posent leur enjeu, tu vois. Ils disent voilà quel est mon enjeu ici que je qu'il va falloir essayer de résoudre.
D'accord. Je comprends. Enfin, je vois vos deux. Écoutez, peut-être que j'irai le voir si j'ai un petit peu de temps. Hein. mais je dois t'avouer, Robin, que. Que c'est difficile là.
Ça fait, c'est pas ta priorité. Non mais franchement, je vais pas dire que c'est le genre de cinéma qui me plaît. Je sais pas si je serais allé le voir sans l'opportunité qui nous a été offerte juste parce qu'on s'est retrouvé
d'avoir une séance pleine
devant,
pour Coco.
Devant l'affiche et parce qu'on s'est fait recaler de Coco. Mais bon, en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne surprise.
Sinon, petite recommandation, il y a une ressortie, et là, nos auditeurs peuvent y aller les yeux fermés. Ils ont ressorti la leçon de piano de Jane Campion,
ouais.
Qui est un des meilleurs films de tous les temps, en fait. Donc voilà, qui raconte l'histoire d'une femme muette amatrice de piano. Qui est envoyé en Nouvelle-Zélande pour se marier avec un colon à la fin du 19e siècle, grosso modo parce qu'elle a eu la cuisse légère et que ses parents essaient de la marier et que vu qu'elle est muette, en fait, ils lui trouvent qu'un mari à l'autre bout du monde. Et avec ce mari, ça va mal se passer, mais elle va tomber amoureuse du voisin qui est beaucoup plus proche des Maoris que des Anglais. Et à partir de là, ce qui est Harvey Keitel, et à partir de là, se développe un jeu de très très trouble de passion c'est magique, c'est un film magique et il faut aller le voir.
Je vais juste parler d'un film que j'ai vu récemment qui est disponible sur Netflix, qui s'appelle Jim and Andy. C'est un documentaire qui est basé sur des... Robin me fait deux pouces vers le haut. Et c'est un documentaire qui est basé sur un tournage de making-of pendant le tournage donc du film Man on the Moon de Milos Forman. Où on voit en fait que Jim Carrey, pendant ce tournage, a pris quasiment la personnalité d'Andy Kaufman, qui était donc le protagoniste du film, qui était un véritable comique américain qui avait fait sensation dans la fin des années 70, début 80, qui était un maître du méta et de l'insertion du comique dans les choses les plus absurdes. Et on se rend compte qu'il a fait du method acting, en fait, Jim Carrey, il a fait son Daniel Day-Lewis dans ce film, c'est-à-dire qu'il était Andy Kaufman vraiment pendant tout le tournage. Alors c'est marrant parce que quand on nous parle des histoires de Daniel Day-Lewis, on accepte ça très facilement. On dit ok, il était Abraham Lincoln pendant 4 mois et il fallait pas le faire chier. Mais c'est vrai que dès qu'on parle peut-être d'un acteur plutôt comique, on aurait tendance à croire que c'est un peu un connard ou voilà, qu'il emmerde son monde en faisant ça. Quand tu vois ce film, tu te rends compte que non, parce qu'au final, je pense que ça a servi énormément à sa prestation. Mais plus que ça, tu te rends compte que Jim Carrey, pendant le tournage, a fait un truc tellement méta que c'est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, il a refait des happenings que Andy Kaufman avait fait à l'époque pour des scènes qu'il a donc retranscrit dans le film Man on the Moon.
C'est là qu'il va encore plus loin. C'est-à-dire que, en fait, Andy Kaufman avait créé un personnage, en fait, un autre
Tony
comique,
Clifton,
comment il s'appelait,
Tony
Clifton, qui était un peu son versant noir, quoi.
Mais voilà, c'est ça.
Et qui se produisait sur scène, qui était représenté aussi par son agent, qui est un des personnages du film de Milos Forman, qui est un personnage tout à fait détestable. Et du coup, en fait, quand Jim Carrey, c'est-à-dire quand il est écrit sur la feuille de service aujourd'hui on tourne les scènes avec Tony Clifton, Jim Carrey était ce personnage-là, c'est-à-dire que en fait il avait pas une autre personnalité, il en avait deux autres.
Oui,
il avait deux autres personnages. Et il y a un autre élément qui rend la prestation de Jim Carrey et cette dimension méta complètement hallucinante et aussi, en dernier sens, assez émouvante quand on découvre le documentaire, c'est que sur le tournage de Miloš Forman, était présent
l'ancien collègue d'Andy Kaufman et la famille d'Andy Kaufman. Enfin,
c'est-à-dire que c'est même la femme, non, la attends,
l'ex petite amie d'Andy Kaufman de...
ouais, qui filmait le documentaire.
Ah ouais.
Et Jim Carrey, c'est-à-dire en fait à l'occasion de ce tournage, rencontre tous les gens qui ont connu Andy Kaufman. Et d'ailleurs, il y a un personnage de catcheur américain, puisqu'à un moment, Andy Kaufman a décidé de faire du catch parce qu'il trouvait que c'était magnifique. Justement, la dimension méta qu'il y a dans le
catch. Il faut que j'explique au moins cette scène pour comprendre le niveau de méta. Andy Kaufman, donc dans les années 80, a décidé de challenger un catcheur. D'accord. Alors que bon, le mec pesait, tu vois, 70 kilos, était pas forcément en grande forme physique, mais il a décidé de monter sur le ring et de foutre sur la gueule un catcheur. Et le catcheur qu'il a plus ou moins détruit, il a sorti du ring. Andy Kaufman avait un peu joué le fait qu'il était blessé, il est sorti en civière, etc. Et s'était mis très en colère contre ce catcheur. Enfin, s'était mis faussement en colère contre ce catcheur. Ce qui s'est passé, c'est que pendant le tournage de Man on the Moon, Jim Carrey, donc en tant que Andy Kaufman, puisqu'il était Andy Kaufman pendant tout le tournage, voulait absolument avoir la même colère du catcheur, au point où le catcheur l'a balancé aussi du ring, mais...
Du coup, le catcheur qui joue son propre rôle dans le film
de
Forman.
Propre rôle. Et Jim Carrey a été amené à l'hôpital sur une civière aussi, au point où les news du moment, de l'époque, on en parlait. Exactement comme dans les années 80. C'est en fait, et il était, et en regardant les news, Jim Carrey a dit, c'est génial, on est en train de, je revis le moment qui a été vécu. Et en fait, moi j'adore tout ce qui est méta en général dans les films, et ce film-là, c'est incroyable. Et moi je pense qu'il y avait d'ailleurs un film, peut-être encore meilleur à faire que Man on the Moon, ce serait interlacer des scènes de Jim and Andy dans Man on the Moon, en fait.
Ouais.
Faire un truc comme Barbara, tu sais, le film d'Amalric dernièrement. Et je pense que tu pouvais avoir un film de 3 heures ultra méta comme l'esprit d'Andy Kaufman. Et je pense que ça aurait été le meilleur hommage à ça.
Est-ce qu'on va avoir maintenant une version fictionnelle du documentaire qui serait Man on the Moon sur un acteur qui va jouer Jim Carrey en train de jouer Andy Kaufman.
Ouais,
qui
serait tellement bien.
Mais vraiment.
Et là, moi, je vous le dis, c'est 5 miams. Juste le conseil que je donnerais, c'est quand même regarder Man on the Moon avant, parce que ça met en exergue beaucoup plus de choses. Mais Jim Carrey, c'est un être formidable. Quoi.
Mais en fait,
il y a des pépites de métaphysique et de philosophie dans ce documentaire.
Mais en fait, moi, ce que je ressens quand je vois du coup les images de Jim Carrey qui est interviewé aujourd'hui par le réalisateur du documentaire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les images prises pendant le tournage ont été bloquées par le studio, en fait. Et ils ont redécouvert ces images récemment qui leur ont donné l'idée, je sais pas qui a fait ça, mais qui ont donné l'idée aux producteurs de faire ce documentaire. Et du coup, ils ont interviewé Jim Carrey. Je pense que c'est juste un interview. Et en fait, ce qui est vraiment surprenant, c'est de voir la lucidité du type aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que tu vois les images du tournage et quand t'as vu Man on the Moon et tout, tu comprends à quel point le mec était complètement perché. Le type est loin, il est vraiment, il est sur la lune, quoi. Et tu le vois aujourd'hui et il a une lucidité déconcertante. Et en fait, moi, j'ai vraiment l'impression d'un type qui est illuminé, quoi, au sens bouddhiste du terme. J'ai l'impression de voir le Bouddha, quoi.
Ce mec est enlightened au possible, hein, pour avoir écouté des podcasts ou des trucs avec lui. C'est
magnifique de pouvoir voir ça, d'être témoin de ça aujourd'hui. Ouais, je mets 5 miams sans pression. Je pense que c'est dans mon top 10 de
complètement. Si oui, il est considéré comme un film de l'année. Donc oui, effectivement.
Pas un film de cinéma, faudra, du coup, puisque il faut le voir sur Netflix, d'ailleurs.
Il faudra qu'on définisse les règles cette année de
d'étape. Ah oui, alors, y a-t-il eu exploitation au cinéma?
Ben non, mais est-ce que Okja peut être dans un top 10?
Alors, pour le coup, lui, il a été exploité au cinéma.
Bah non,
aux États-Unis.
Pas en France.
Ah, aux États-Unis. Ouais, mais pas
en France.
France.
Ah oui. Ah ouais, bah là, attention, là on vit où là, les gens? On vit dans le monde entier. On voyage, on fait des voyages, on peut
non,
voir
mais
des films.
Il faudra se poser, établir les règles parce que sinon ça va être foufou cette année.
Mais à la limite, c'est pas très grave parce que plus c'est foufou, plus il risque d'y avoir de la variété et donc plus on va conseiller quelque part parce que si on est 4, ça veut dire 40 films à voir dans l'année. Et comme je l'avais dit la dernière fois, alors c'est pas pour nous envoyer des pétales de rose hein, sur la figure, mais j'avoue que quelqu'un qui écoute le top 10 de l'année dernière et qui a pas vu certains films, bah c'est gratuit quoi. C'est avoir des conseils de films qui sont vraiment les meilleurs. Donc vous allez voir cette année tout ce qu'on va vous recommander. Voilà.
Attention, ça va être le meilleur top francophone de.
C'est ça.
Attention, en fait, on annonce.
On peut faire un top des tops.
Alors
même
mon
top
premier...
1, c'est le top de fin de séance. Ah, le top 2, c'est le top des cahiers de cinéma.
Oui, c'est ça. Voilà, cette fois-ci, on est sûr, on n'a qu'un autre film.
Non, on fait des bisous.
On fait des bisous. Et ben voilà, à la semaine prochaine. Bisous à tous.
Ciao.
Ciao, merci. Ciao.